Vous écoutez France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Thierry Paco rencontre Serge Latouche. Ce soir, genèse de l'idée de décroissance.
Bonsoir, Serge Latouche. Votre renommée est dorénavant liée à la notion de décroissance. Celle-ci est attribuée à l'économiste d'origine roumaine Nicolae Georgescu-Roegen. D'autres auteurs contribuent à la populariser, comme Paul Ariès, Vincent Chesnais, Bruno Clémentin, Fabrice Flippot, tandis que d'autres s'en démarquent, comme Alain Lipietz, ou la ridiculisent en se ridiculisant, tel Pascal Bruckner. Il est temps, Serge Latouche, au cours de nos entretiens, maintenant d'aborder cette notion qui, de slogan, c'est d'abord une véritable conception du monde. D'où vient cette idée de décroissance ?
Alors, c'est né à la fois du hasard et de la nécessité. Du hasard, parce que je n'avais jamais utilisé le mot décroissance avant 2001, mais l'idée, évidemment, était en l'air. Il y avait un arrière-fond qui faisait que le mot est arrivé au bon moment. Alors, c'est à travers une demande d'article de la revue écologiste Silence qui disait, bon, il serait peut-être temps de relancer le mot décroissance. Elle disait relancer parce que le mot décroissance avait été utilisé comme titre d'un ouvrage d'essai de Nicolae Georgescu-Roegen, évidemment que tout le monde ignorait. Et l'ouvrage lui-même n'a pas eu un succès fantastique. Mais enfin, pour eux, c'était une idée qui faisait son chemin et ils voulaient que je contribue à ce numéro. Et immédiatement, j'ai fait un article qui est devenu un programme, en quelque sorte. « Abat le développement durable, vive la décroissance conviviale ». Alors, ce n'est pas innocent parce qu'effectivement, nous nous battions depuis déjà longtemps, j'ai dit nous, la petite internationale des disciples d'Ivan Illich, contre le développement et contre la forme la plus perverse, en quelque sorte, et celle qui a eu le plus de succès, c'est le développement durable. Et nous étions déjà convaincus à l'avance que le développement, précisément, n'est pas durable. Et donc, face à ce slogan qui, du point de vue publicitaire, a été une très grande réussite, puisqu'il a réussi à convaincre tout le monde, et nous étions convaincus que c'est comme une clé qui ouvre toutes les portes, c'est une mauvaise clé. Donc un slogan qui fait l'unanimité est sûrement un slogan pervers. Et donc pour dénoncer l'imposture de ce slogan à succès, nous avions besoin d'un mot fort. Et décroissance, qui semble blasphématoire, puisque nous vivons dans la religion de la croissance, décroissance, ça fait un effet de provocation, parce qu'immédiatement les gens se disent « mais comment, ils sont fous ces gens, comment peut-on préconiser la décroissance ?» Mais en même temps, étant provoqué, bon, certains esprits curieux se disent « mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Et donc c'était une bonne entrée finalement, parce qu'au fond, le message, c'est celui que Illich, Gors, Castoriadis prêchaient dans le désert depuis 30 ans. Et à partir du moment où on a trouvé ce slogan, eh bien, le message a commencé à faire son chemin.
Alors cette décroissance n'est ni la croissance verte, évidemment, ni une croissance négative.
Effectivement. Alors c'est assez amusant. Depuis la crise de 2007, donc quelques années après qu'on ait commencé à utiliser ce mot, il a été repris par les gens du mainstream, nos adversaires, etc., pour dire, voyez, on est en décroissance. Et ce n'est pas du tout convivial, ni serein, ni joyeux. Alors c'est amusant parce qu'ils n'utilisaient jamais ce mot. Et les économistes parlent de croissance négative, ce qui est une antinomie. Bon. Et effectivement, bien évidemment, derrière le slogan, il y a un projet de construction d'une alternative à la société de croissance, pas à la croissance, mais à la société de croissance. Et cette alternative n'a rien à voir avec la récession, la crise, la dépression que nous connaissons et dont, dès le départ, nous avions dit, il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. Parce qu'au moins, dans une société de croissance, avec croissance, il y a de l'emploi, il y a des ressources pour financer les budgets de santé, d'éducation, de la culture, etc. Bon, bien sûr, on détruit l'environnement, on exploite le tiers-monde, mais au moins, il y a ça. Mais une société de croissance sans croissance, alors vous avez du chômage, ce qui est une vraie tragédie, et puis vous n'avez plus de financement de tout ce qui, dans une société de croissance, c'est-à-dire dans une société de capitaliste, d'exploitation et d'aliénation, donne malgré tout un minimum de qualité de vie, la culture, l'éducation, la santé, etc., et même la prise en compte de l'environnement.
Alors, Serge Latouche, vous évoquez l'abondance frugale. C'est un oxymore, un peu, d'une certaine façon.
Alors, ça paraît un oxymore parce que nous avons tous notre imaginaire colonisé par la religion de croissance. Et nous pensons, on nous l'a dit, il y a eu des livres fameux qui sont sortis, qui d'ailleurs étaient des livres critiques. Je pense à Galbraith, The Affluent Society, qu'on a traduit la société d'opulence. Mais souvent, on parle de société d'abondance. Bon, il disait bien qu'en fait, c'était une fausse abondance. Baudrillard l'avait dénoncé, etc., que c'était une mystification. Mais on pense quand même qu'avec cette société de consommation, ce gâchis fantastique, on vit dans l'abondance. En réalité, on vit... Et on doit vivre dans la rareté et dans la frustration. Alors, les principaux ressorts du système le savent très bien, les publicitaires, parce qu'ils disent « un peuple heureux ne consomme pas ». Hein, certains avec beaucoup de cynisme, comme Frédéric Beigbeder, n'est-ce pas, dit « bon, mon métier, c'est de vous frustrer, hein, et c'est de vous rendre insatisfait de ce que vous avez pour vous faire désirer ce que vous n'avez pas ». Donc on est forcément des frustrés dans cette société. Et donc c'est tout le contraire de l'abondance. Il n'y a pas de société d'abondance possible s'il n'y a pas de limite. On est dans une société de l'illimitation. Il faut mettre des limites, car c'est seulement s'il y a des limites qu'on peut espérer satisfaire ses désirs ou ses besoins. C'est pour ça que, quand j'ai parlé de société d'abondance frugale, je pensais à l'anthropologue Marshall Salins, qui a écrit un très beau livre traduit en français sous le titre « Âge de pierre, âge d'abondance ». C'était aussi un peu une provocation, mais il nous explique que les seules sociétés d'abondance dans l'histoire, c'est les sociétés du paléolithique, sociétés de chasseurs-cueilleurs, où les gens pouvaient satisfaire leurs besoins, parce qu'ils en avaient très peu, avec une activité qui n'avait rien à voir avec du travail, au sens où on l'entend à l'heure actuelle, une activité de divertissement, de chasse, de pêche, de cueillette, qui représentait 2 à 3 heures. Et les anthropologues, même à l'heure actuelle, qui examinent encore les dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs, au Kalahari ou ailleurs, le vérifient encore aujourd'hui. Et donc, le reste du temps, ben, ils font de la danse, du jeu, de la méditation, du rêve, comme les aborigènes d'Australie, etc. Alors, il ne s'agit pas de retourner, comme nous accusent nos adversaires, à l'âge de pierre, bien sûr, encore que quelques-uns, les primitivistes américains, hein, Zorzan, etc., ont développé cette idée. Non, il s'agit d'inventer une société post-moderne, n'est-ce pas, qui à la fois... comme le dit mon collègue anglais, qui est au fond un partisan de la décroissance, Tim Jackson, va d'inventer une société de prospérité sans croissance. Alors, non seulement c'est possible, mais il n'y a de véritable prospérité que si on sort de la croissance, c'est-à-dire si on met des limites. Et nous avons tout ce qu'il faut à l'heure actuelle pour satisfaire surabondamment les besoins de tout le monde. Mais évidemment, il n'y en aura jamais assez, pour paraphraser Gandhi, pour satisfaire l'avidité des prédateurs.
Alors Serge Latouche, dans un de vos livres, vous écrivez ce proverbe amérindien « Être dépendant signifie être pauvre, être indépendant signifie accepter de ne pas s'enrichir ». Alors c'est ça finalement la prospérité sans croissance.
Oui, alors bon, la traduction, je ne suis pas connaisseur des langues amérindiennes, je pense qu'il n'y a pas de mot dans les langues amérindiennes pour parler des pauvres. La pauvreté, c'est une invention moderne. Donc tous les mots qu'on utilise généralement pour traduire l'idée moderne de pauvreté dans les sociétés traditionnelles, c'est généralement basé sur la dépendance. On dit, comme un proverbe wolof qui dit « est pauvre celui qui n'a personne ». Quand on a la solidarité tribale, familiale, on ne peut pas être pauvre dans le sens où il y a toujours quelqu'un qui vous soutient. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas de soutien social. Alors effectivement, si on est dépendant, qu'on n'a pas assez de soutien, on est pauvre.
En fait, d'une certaine façon, le mot décroissance, il faut l'entendre accolé à société de décroissance.
Absolument.
Il faut que ce soit une société, pas simplement un projet économique ou une intention comme ça.
Bien évidemment.
On produira moins, ce n'est pas une question de production.
Bien évidemment, ça n'est pas le symétrique de la croissance. Si vouloir faire décroître tout et n'importe quoi, ça serait absurde, n'est-ce pas ? Mais ni plus ni moins que faire croître tout et n'importe quoi. Seulement, faire croître, quand on dit croissance, 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 personne ne s'interroge, croissance pourquoi, jusqu'à quel point, au profit de qui, etc. Décroissance, donc ça pose l'interrogation. Bien évidemment, les objecteurs de croissance, comme nous nous appelons, veulent la croissance de beaucoup de choses, la croissance de la joie de vivre, mais aussi même la croissance de la qualité de l'air, de la qualité de l'alimentation, qu'on ne nous fourgue pas du cheval dans nos cannelloni, etc. Hein, la croissance de la qualité de l'eau, nous ne pouvons plus boire l'eau que la nature nous a donné, des sources qui avaient des goûts particuliers, fantastiques, etc. Nous sommes obligés de boire de l'eau en plastique. Enfin, bon, donc c'est la logique de la croissance pour la croissance, c'est-à-dire une société qui cherche à croître, non pas pour satisfaire les besoins, mais qui a besoin de croître pour croître. Donc qui est basée sur cette illimitation, cette triple illimitation de la production, de la consommation et surtout de la génération de déchets et de pollution.
Vous avez préfacé un texte magnifique de William Morris où justement il explique qu'il serait nécessaire d'ajuster l'offre et la demande afin justement de la maîtriser.
Oui, alors c'est intéressant parce que William Morris, on peut être considéré comme un des précurseurs et pas seulement lui, en fait, presque tous les socialistes qu'on a appelés romantiques ou utopistes étaient des gens qui avaient compris qu'on entrait dans un système de démesure et qui plaidaient non pas pour, comme on les a accusés, pour un retour à un Moyen-Âge mythique, etc., mais pour une société qui maîtriserait la domination, parce qu'on dit la modernité, c'est l'homme maître de la nature, qui dominerait, qui maîtriserait sa maîtrise.
Et en fait, ce n'est pas du tout le cas, finalement, aujourd'hui.
Aujourd'hui, alors, avec la mondialisation, surtout la mondialisation, là, les théoriciens de la mondialisation l'ont bien dit, il s'agit de détruire toute limite. Donc, c'est ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux, sans limite possible.
Alors, Serge Latouche, vous avez pris votre bâton de pèlerin, on peut dire ça comme ça, et vous partez régulièrement dans des librairies un peu partout en France ou en Europe. Ne le prenez pas mal, mais pour prêcher la décroissance, quels sont vos arguments chocs?
L'argument principal hein, qui est repris de Nicolas Georgescu-Roguen, qui était tout simplement un constat de bon sens, c'est qu'une croissance infinie est incompatible avec un monde fini. Alors, nous en avons un indice qui est assez connu, qui est l'empreinte écologique. On peut calculer l'empreinte écologique soutenable, c'est-à-dire tout ce que nous consommons, que nous produisons, que nous rejetons, a un impact sur la petite boule sur laquelle nous vivons. Donc ça se traduit, avec des calculs, des coefficients, par une certaine superficie de terre. Et comme cette terre est limitée à 55 milliards d'hectares et que nous sommes environ 7 milliards, le calcul est assez vite fait. Nous pouvons disposer, sans détruire cette planète, nous pouvons disposer par personne environ de 2 hectares, disons, ce qui fait à peu près 2 terrains de football. Si nous dépassons cela, nous avons un mode de vie qui n'est pas soutenable à long terme. Malheureusement, déjà, l'humanité dépasse largement de plus de 50% ces 2 terrains de foot. Et pour nous, Français, c'est 6 terrains de foot. Et pour les Américains, c'est 8 ou 9.
Donc le match est fini.
Donc nous y arrivons pour l'instant de deux façons, parce que nous recevons une assistance technique massive des pays du Sud, des pays africains, moins consommateurs. Et penser que nous représentons, nous les Occidentaux, moins de 20% de la population mondiale et nous consommons plus de 86% des ressources. Mais ça ne suffit pas. Et nous faisons comme le fils prodigue de la Bible, nous ne vivons pas seulement sur le revenu, mais nous dévorons le patrimoine. Alors évidemment, ça n'aura qu'un temps. C'est précisément la parenthèse de la croissance, l'ère du pétrole.
Et dans vos diverses conférences, le public réagit comment? Favorablement?
En général, alors c'est, je ne sais pas si ça tient à ma violence verbale, bon, mais généralement, il y a peu d'opposition, ou bien si parce que les gens ne viennent que parce qu'ils sont déjà convaincus ou plus ou moins convaincus. C'est très rare qu'il y ait des critiques, ou alors les critiques sont caricaturales et les gens de la salle remettent de l'ordre immédiatement.
Serge Latouche, est-ce que ce mot de décroissance a été traduit? Est-ce qu'il a un écho dans d'autres pays?
Alors, il a un écho, on peut le dire maintenant, mondial, puisque nous avons eu le 3e forum mondial de la décroissance à Venise, où je crois il y avait une 50aine de pays représentés. Évidemment, dans beaucoup de pays, c'est minoritaire. Alors, je dois dire que l'impact de la décroissance est d'abord dans les pays latins, parce que d'abord, le mot décroissance n'est pas traduisible dans les langues non latines. Ce qui ne veut pas dire que le projet n'a pas de sens. Simplement, moi, j'étais assez peu partisan de ce développement mondial. J'ai dit chaque culture, chaque société doit trouver dans son imaginaire les mots pour le dire, comme les Amérindiens d'Équateur et de Bolivie, bon, avec leur buen vivir, leur bien vivre sous Macosay, leur bien vivre, ils m'ont dit tout de suite, c'est la même chose que la décroissance. Donc ils ont trouvé, eux, les mots pour le dire. Je pense que maintenant, ce qui s'est imposé dans la mondialisation contestataire, degrowth, hein, en anglais, c'est un barbarisme horrible que je ne trouve pas vraiment sympathique, d'autant plus que les Anglais avaient d'autres mots, downsizing, post-carbone, etc., pour désigner un projet comparable.
Alors, est-ce que, quand vous expliquez dans plusieurs de vos ouvrages qu'il nous faut construire une bioéconomie, et vous laissez entendre que du coup, évidemment, ça va permettre à l'agriculture biologique, par exemple, d'être créatrice d'emplois, est-ce que vous pensez que c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre dès maintenant ?
Alors, elles sont déjà mises en œuvre. D'abord, je vous dis tout de suite, moi, j'utilise jamais le mot bioéconomie, parce qu'il y a le mot économie dedans, qui est un mot pour moi toxique. Hein. Mais donc, une société écosoutenable. Alors, il y a un développement de l'agriculture biologique, et en particulier des formes les plus avancées de cette agriculture, la permaculture, l'agroforesterie, etc. Donc là, il y a quelques chercheurs, quelques expériences à un niveau... toujours présent. D'ailleurs, on voit dont les résultats sont très positifs, mais c'est évidemment un grand combat contre le lobby extrêmement puissant de l'agriculture productiviste.
Et puis aussi de toute la logique, évidemment, de la croissance pour la croissance.
L'agriculture productiviste, c'est le volet agricole de la logique de la société de croissance.
Avec un épuisement du sol, avec un épuisement de l'eau qui est évidemment démesuré.
Quoi. Alors là, oui, et souvent on se dit, mais une des objections qu'on fait à la décroissance, mais avec votre système, etc., comment vous pourrez nourrir la planète en 2050 quand il y aura 10 milliards d'habitants ? Alors, je ne suis pas agronome, hein, je ne suis pas sûr, comme Madame Marie-Monique Robin, les moissons du futur, ça va vous dire, bon... qu'on arrivera largement avec l'agriculture biologique à nourrir 10, 12 milliards, même plus d'habitants. Mais je suis sûr d'une chose, malgré tout, c'est qu'avec l'agriculture productiviste, on n'y arrivera pas. Et on n'y arrivera pas pour trois raisons. Parce que il n'y aura plus de pétrole. Or, l'agriculture productiviste, c'est d'abord du pétrole. Les pesticides, les engrais, les tracteurs, les systèmes de réfrigération pour la grande distribution, c'est du pétrole. Hein. Donc là, il n'y en aura plus, ou en tout cas plus de pétrole bon marché pour faire ça. Ensuite, cette agriculture, ces engrais chimiques, etc., détruisent les sols à long terme, tuent toute la vie du sol. D'ailleurs, on appelle ça des biocides. Hein, et nous détruisons environ 16 à 17 millions d'hectares de terres chaque année. Alors pour l'instant, on compense ces terres détruites en détruisant les forêts et en faisant du soja sur la forêt amazonienne. Mais en 2050, il n'y aura plus un arbre dans l'Amazonie pour remplacer ce qu'on a détruit. Donc, elle n'a pas d'avenir, cette agriculture. En revanche, l'agriculture biologique est la plus productive au mètre carré. Bien sûr, il faut beaucoup d'investissement travail. C'était plus ou moins, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si en partie la permaculture est née au Japon. Hein, c'est en Asie qu'ils avaient depuis des siècles et des siècles. Ils étaient capables de nourrir sur des petites parcelles des familles nombreuses, hein, parce que c'est une agriculture extrêmement productive qui peut donner 2 ou 3 récoltes par an. Mais évidemment, ça demande un très grand entretien de la terre.
Un permaculture, je précise, c'est la culture permanente, hein, c'est ça, c'est ce jeu de mots-là. Serge Latouche, comment vous vous positionnez par rapport à ces innombrables tentatives qui osent souvent s'afficher comme décroissantes, je pense aux villes lentes, aux villes en transition, aux réseaux d'échanges, sel, etc.
Alors, je pense que le projet de la décroissance, le projet de la construction d'une société d'abondance frugale, donne un horizon de sens à toutes ces initiatives. Parce que souvent, les petites initiatives ont tendance à se replier sur elles-mêmes, à manquer de débouchés, d'avenir. Bon, c'est très sympathique, hein, small is beautiful, mais ça ne change pas au bout de quelques années, ça s'épuise et puis ça disparaît. Avec le projet de la décroissance, c'est un projet global, ça ouvre beaucoup de perspectives. On s'y reconnaît totalement. Hein, on dit, bon, c'est l'application au niveau micro de notre projet qui est plus macro.
Alors justement, cette notion de lenteur, dans notre imaginaire, on l'associe assez facilement à la décroissance. C'est-à-dire que l'idée de décroissance, c'est aussi de prendre son temps, de faire des détours, de paresser,
de ne pas être
dans l'excitation permanente.
On me l'a fait remarquer, on m'a dit, mais oui, parce qu'à chaque fois, vous savez que j'ai fait le projet de la conception sous la forme des 8 R. Et on m'a fait souvent dans les réunions, alors il y a toujours quelqu'un qui dit, mais vous avez oublié un R. Alors chacun a son R particulier, et donc on dit, vous allez ralentir. Mais je dis, mais non, je ne l'ai pas oublié. Ralentir fait partie de réévaluer, revoir les valeurs, et dans les valeurs de notre société, ben évidemment, la lenteur fait partie des valeurs à valoriser. Alors ce qui est amusant, c'est que nous partageons avec le mouvement slow le même emblème, c'est-à-dire l'escargot, mais nous le partageons, bien sûr, parce qu'il est le symbole de la lenteur, mais parce que, dans un très beau texte, Ivan Illich nous explique que l'escargot, comme la société occidentale a épousé la raison géométrique et construit sa maison selon une progression géométrique. Chaque alvéole représente donc c'est une progression de raison 2, beaucoup plus grand. Et il nous explique que l'escargot s'arrête, à la différence de l'humanité, il s'arrête après la quatrième alvéole parce que s'il en faisait une cinquième, elle représenterait 18 fois le volume des précédentes. Et donc, il passerait toute sa vie à construire sa maison. Alors, arrivé à la quatrième, il revient en arrière, il fait, dit Illich, des enveloppements décroissants, il consolide sa maison. Et donc, c'est une voie de sagesse pour l'humanité. Arriver à un certain niveau, à un certain seuil de croissance, il faut s'arrêter, consolider, c'est ça le projet de la société d'abondance frugale.
Mais Serge Latouche, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu d'une lenteur quand même particulière qui est celle de l'ensemble de la société, qui ne va pas assez vite peut-être pour prendre le tournant énergétique par exemple?
Oui, alors effectivement, si on s'investit concrètement dans des actions, on est forcément amené à être très déçu parce que c'est très très difficile, ça avance très très lentement. Bon, mais avec un peu de recul, on voit, les idées cheminent malgré tout. Et surtout, faut bien voir que l'histoire n'est pas linéaire. Et donc, il y a des moments d'accélération, des tournants. Castoriadis insiste beaucoup. Il avait été très frappé par l'expérience de mai 68. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et tout d'un coup, les gens commencent à changer parce qu'au fond, on est tous dans une situation un peu schizophrénique. Donc, on a un hémisphère du cerveau qui pense avec le système et un autre qui pense contre le système. Et puis, tout d'un coup, ça bascule. C'est l'hémisphère gauche qui l'emporte sur l'hémisphère droit. Ça s'appelle une révolution.
Et vous êtes, comme Arne Naess, partisan d'une révolution réformiste. Il a coupé les deux mots, d'une certaine façon.
Alors, j'ai utilisé le mot réformiste, je le regrette, parce que ça prête à ambiguïté, je voulais dire réformateur. Je veux dire, la conception de la décroissance est révolutionnaire, c'est d'abord une révolution culturelle, mais il n'y a pas de révolution culturelle sans révolution tout court, c'est un changement. Et puis la mise en œuvre, bien sûr, passe à travers des réformes, parce qu'on ne change pas les choses du jour au lendemain. Le programme est forcément réformateur, mais il n'est pas réformiste au sens où le mot réformiste...
Oui, on ne va pas aménager la société productiviste, change radicalement.
Voilà. Il ne s'agit pas de faire un capitalisme éco-compatible. Il faut vraiment sortir du système. De point de vue sale, la radicalité est fondamentale.
Alors, est-ce que cette radicalité va pouvoir se reposer sur le réchauffement climatique, sur le pic pétrolier, sur le danger nucléaire, etc. Est-ce que ces trois éléments-là vont accélérer la prise de conscience à l'échelle mondiale de la nécessité, justement, d'effectuer cette révolution-là?
Alors, on est dans une lutte titanesque entre deux logiques qui sont toutes les deux vraies. La logique qui a été mise en évidence par Naomi Klein, de la stratégie du choc vers un capitalisme du désastre, où plus il y a des catastrophes, plus le système renforce sa logique catastrophique. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et puis, le catastrophisme éclairé, ou ce que j'appelle la pédagogie des catastrophes, qui rejoint le catastrophisme éclairé de notre ami Jean-Pierre Dupuis, où les catastrophes, alors pour moi, les catastrophes ont un rôle pédagogique, et on le voit bien, Tchernobyl a amené toute une série de pays à refuser le nucléaire, par exemple, sauf la France, bien sûr. Donc, je crois que les deux logiques fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a en même temps, l'oligarchie mondiale profite des catastrophes pour renforcer son pouvoir et pour imposer avec un certain succès, mais en même temps, ces catastrophes développent une conscience contestataire du système et donc des moments, il peut y avoir une crise et un renversement. Alors, je crois qu'on n'a pas beaucoup de raisons d'espérer, mais celle-là en est une. On peut faire confiance au système. Il y aura des catastrophes et ces catastrophes auront peut-être le pouvoir de nous réveiller et d'amener des changements dans le bon sens.
Oui, parce que ce serait donc du bon usage des catastrophes, mais il y en a une quand même qui moi, me chagrine énormément, c'est cette espèce de conviction qu'il faut encore et à nouveau développer et accroître le parc automobile planétaire. L'Inde et la Chine s'auto-immobilisent, mais ça, ce sera pour plus tard. Alors comment faire pour convaincre ces sociétés? On avait déjà dit lors de notre premier entretien, ça fait un peu l'occidental, un peu aisé, comblé, qui vient dire à ceux qui n'ont pas eu accès à la société de consommation, non, n'y allez pas, c'est pas bien.
Alors, si je prends mon bâton de pèlerin pour prêcher, je ne vais pas prêcher ni en Afrique, ni en Chine, ni en Inde, etc., avec le slogan « décroissance, allez-y, ne faites pas nos bêtises », etc. Je pense que c'est à eux de faire leur propre chemin, et ils le font. Et ils le font. C'est quand même assez extraordinaire que le ministre officiel du gouvernement chinois de l'environnement a déclaré « Nous détruisons notre environnement de façon incroyable, ça correspond à peu près à 12% du PIB annuel. » C'est-à-dire que ça annule totalement notre croissance si on devait financer les coûts de la destruction. Donc ça, c'est étonnant. Et la Chine est quand même une très vieille civilisation. Je pense que l'arrière-plan confucéen, bouddhiste, taoïste est là. Les Chinois ne sont pas des Américains. Ils sont capables, je pense, d'avoir un sursaut et de retrouver le sens de la mesure. Ils sont conscients des problèmes. Bon, bien sûr, il y a des rapports de force, etc. Mais tous les collègues chinois que j'ai pu rencontrer disent « la décroissance, c'est ce qu'il nous faut, c'est important, il faut... Bon. » Donc je pense qu'ils y arriveront beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Donc, par la force des choses, d'ailleurs.
Il faut qu'on soit attentif à tous ces petits mouvements qui doivent certainement exister en Chine aussi et peut-être même proliférer et qu'on ne voit pas parce qu'on nous présente évidemment que la face capitalistique de l'Empire chinois contemporain.
Oui, mais il faut quand même penser qu'aux 700 millions de paysans chinois en voie de mingonisation, finalement sont les victimes du système. Et il y a quand même des très gros problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, où ils ont déjà une longueur d'avance, la décroissance fait un tabac. Et surtout après Fukushima.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Thierry Pacaud rencontre Serge Latouche. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Frédéric Kérou, Étienne Leroy. Réalisation Anne Sécheret, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Thierry Pacaud avec Serge Latouche.